Donc, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Béat. Ça, c'est ma famille. Donc, avec mon épouse. Et puis, donc, on a trois filles depuis quelques semaines, toutes adultes. Donc, on a passé 22 ans sur ce beau continent de l'Afrique. Et Dieu nous a conduits en trois phases. Chaque fois, cette année, 8 années. Et maintenant, depuis 2016, on est donc à Bienne. Ce qui nous a animés pendant toutes ces décennies, je peux déjà dire maintenant, c'est cet amour pour les musulmans. Et c'est ce fardeau d'aller là où le nom de Christ n'est pas encore nommé. Donc, on a à chaque fois investi dans des peuples non atteints, que ce soit nous-mêmes, en parlant avec eux chaque jour, que ce soit en formant d'autres, pour qu'eux, ils aillent là où le nom de Christ n'est pas encore nommé. Ça, c'est un appel que Dieu a placé sur nos vies. Nous le poursuivons aussi ici à Bienne avec tous ces immigrants, surtout des pays musulmans. Et nous nous focalisons aussi sur eux ici à Bienne, donc surtout les Afghans, les Iraniens et les Kurdes. Je vais en revenir dans quelques minutes. Donc c'est ce beau ministère d'aller là où Jésus n'est pas encore connu. Et donc ce matin, vous voyez déjà sur le slide déjà bénir les musulmans. Donc mon fardeau dans mon cœur, c'est de bénir les musulmans. Et donc, je vais juste vous donner un peu de cette base biblique, de ce Dieu de la bénédiction. Et c'est une chose qui me frappe quand vous lisez la Bible, notre Dieu est un Dieu qui aime bénir. D'ailleurs, la première chose que Dieu fait dans le jardin d'Éden, après avoir créé l'homme et la femme, Adam et Ève, la toute première chose qu'il fait, il les bénit. Il les bénit. Donc la première chose, Dieu bénit l'humanité, je peux dire. Et puis quand il appelle Abraham, cette notion de bénédiction revient. Il dit à Abraham, je veux te bénir. Et puis ça ne s'arrête pas là. Il continue cette promesse, tu seras une source de bénédiction. Et ensuite, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, nous voyons je peux dire, ce triangle ici. C'est d'abord la bénédiction pour Abraham en tant que personne, pour sa famille. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut que ça aille plus loin. Quand tu es béni, tu deviens immédiatement source de bénédiction et en toi-même, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc en fait, Dieu dit à Abraham, je veux que tu reçoives. Mais quand tu reçois, ne ferme pas tes mains. Ouvre tes mains, passe la bénédiction plus loin, comme ça tu recevras à nouveau plus de ma part aussi. Donc en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on garde la main ouverte pour le voisin. Et si la main est ouverte pour le voisin, les mains sont aussi ouvertes pour recevoir davantage. Mais si nous serrons la bénédiction en nous-mêmes, la main est fermée pour le voisin, les mains sont aussi fermées pour recevoir davantage de notre Dieu. Donc Dieu veut que ça coule en nous, au travers nous, vers les autres, jusqu'à ce que toutes les familles de la terre soient touchées par cette bénédiction. Ce qui me frappe en Genèse, cette promesse de la bénédiction et de la source de bénédiction, et donc est donnée à Abraham une fois, elle est répétée à Abraham, donc une deuxième fois, ensuite elle est donnée à Isaac, et puis elle est donnée à Jacob, et répétée à Jacob. Donc 5 fois, rien qu'en Genèse, vous avez ce principe, tu es béni et tu deviens une source de la bénédiction. Donc ça, c'est le cœur de Dieu, il est un Dieu de la bénédiction, mais pas pour nous seulement, que ça passe plus loin. Et tout au long de l'Ancien Testament, le temps me manque. Là, il faut déjà le cours de missiologie qui commence la semaine prochaine à l'école pour avoir tous ces passages. Là, il y a des dizaines de passages dans l'Ancien Testament où Dieu dit la même chose. Que la bénédiction soit là, ou bien l'adoration soit là, afin que les extrémités de la terre le craignent. Quand Jésus, le Messie, vient, nous voyons le même principe dans sa vie. Actes 10, 38 nous donne un bon résumé de son ministère. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, nous voyons ici le même principe en d'autres termes. Tu es oint du Saint-Esprit, donc tu as reçu la bénédiction, la puissance de Dieu, et la suite, c'est quoi? Qu'il aille de lieu en lieu, il fait du bien, il guérit les malades, il délivre les opprimés, car Dieu est avec lui. Ça, c'est un résumé du ministère de Jésus qui allait dans tous les villages, toutes les villes pour annoncer le royaume de Dieu, pour prêcher, guérir et délivrer. Et quel beau résumé de ta vie, de ma vie, de recevoir la bénédiction juste d'aller de lieu en lieu, là où nous sommes, pour partager cette bénédiction. Donc Jésus fait ça tout au long de sa vie, et ensuite à la fin de sa vie, ce qui est intéressant, sa toute dernière action avant de quitter ce monde, c'est de bénir ses disciples. Luc 24, 51, en les bénissant, il est enlevé, il part au ciel. Donc la toute dernière action de Jésus, c'est de bénir ses disciples. Maintenant, Luc 24 ne nous dit pas comment il les a bénis. Pour ça, il faut lire Acte 1-8, parce qu'Acte 1-9 est un verset parallèle à Luc 24, 51. En Acte 1-9, Jésus est aussi enlevé au ciel. Deux anges qui sont là, n'est-ce pas, ils le voient partir. Donc c'est un verset parallèle à Luc 24. Mais en Acte 1-8, nous lisons les toutes dernières paroles de Jésus. En quittant, en les bénissant, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, vous serez revêtus du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc le même principe est répété. La dernière action de Jésus, il les bénit et il leur dit, voilà, vous recevez la puissance, vous recevez le Saint-Esprit, donc la bénédiction, et vous serez une bénédiction, vous serez mes témoins. Donc c'est ça l'héritage que Jésus laisse à ses disciples, cette bénédiction de Dieu. Donc Dieu commence par bénir, Jésus termine par bénir, Dieu est un Dieu de la bénédiction. Alléluia, on est avec moi. Maintenant, les paroles qui sont utilisées dans ce verset 8 du chapitre 1 en acte, en grec, sont assez significatifs. Il dit en fait, vous recevrez une puissance, le terme grec utilisé ici, c'est le mot dynamis, qui est donné en français dynamite. Enfin, Jésus dit, vous recevrez la dynamite de Dieu. Et cette dynamite de Dieu est irrésistible. Elle peut même faire sauter les Alpes si c'est nécessaire. Elle va ouvrir toutes les portes, verrouillées même, parce que la dynamite, la puissance de Dieu, elle est en nous, elle est en vous. Et puis il dit, et vous serez mes témoins. Le terme grec de témoin, c'est martus, qui a donné en français martyr. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux termes-là qui en fait s'excluent mutuellement, mais non, ils ne s'excluent pas mutuellement. En fait, Jésus dit, vous recevrez la puissance de Dieu en vous, la dynamite qui ouvre toutes les portes si nécessaire, mais en même temps, cette dynamite de Dieu vous rend capable de donner vos vies, de laisser vos vies, de vous renier vous-même à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde, pour que cette bénédiction soit partagée. Et nous voyons ça tout au long du livre des Actes et de l'histoire de la mission et de l'Église. Cette dynamisme, cette combinaison de la puissance de Dieu dans la fragilité de l'homme, dans l'humilité de l'homme. Rien qu'en acte, déjà, vous voyez que l'Évangile progresse partout. Donc la puissance, la bénédiction, le royaume de Dieu est partagé à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à Rome, tout en passant par la fragilité, l'humiliation de l'homme. Le premier martyr, Étienne, n'est-ce pas, en annonçant la bonne nouvelle, il est lapidé. Paul, vous connaissez toutes ces histoires en acte, n'est-ce pas, et dans les épîtres. Paul, il souffre énormément, il est fouetté, il est lapidé. Il est chassé, il est persécuté, il y a des menaces de mort. En même temps, l'Évangile est propagé partout, en Europe, en Asie, même en Afrique avec l'Éthiopien. Donc l'Évangile va partout, mais par la fragilité de l'homme. Et cette combinaison entre la dynamite et le martyr se voit même aujourd'hui, surtout dans les pays musulmans où il y a beaucoup de persécutions, où il y a beaucoup de dangers, mais en même temps l'Évangile aussi progresse partout. Donc c'est une combinaison que nous ne pouvons pas éviter. On ne peut pas l'éviter. Donc la dynamite de Dieu et le martus, le martyr de l'homme, vont de pair. Donc, cette bénédiction, vous voyez, j'ai encore mis deux autres versets ici pour un peu montrer ce sujet. Dieu nous a comblés de toute bénédiction en Christ. Je trouve ça un verset tellement fort, vous voyez. D'abord, il a dit toute bénédiction, donc il n'y a rien qui manque. Et puis il dit comblés. Nous sommes comblés de toute bénédiction en Christ. Donc ça dépasse la dose. Alléluia, ça dépasse la dose. Quand Dieu donne la bénédiction, il comble. Et puis il dit, voilà, donc si on met les deux versets de Éphésiens 1.3 et 1 Pierre 3.9 à côté, vous voyez ici, donc nous sommes déjà bénis de toute bénédiction. Maintenant, il dit donc, bénissez. Donc le même principe, hein, vous êtes déjà comblés. Donc maintenant, l'ordre, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Beaucoup de chrétiens se posent la question, quel est mon appel? Mais j'ai déjà une réponse partielle à vous donner ce matin. Votre premier appel, c'est bénir. Donc si tu ne sais pas quoi faire, commence déjà par bénir. Hein? Commence par bénir et Dieu ouvre les portes pour aller plus loin. Et puis il continue, vous voyez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, c'est tellement beau ce sujet. Vous voyez, on est déjà comblé de toute bénédiction, on bénit toute notre vie et à la fin, on va encore hériter la bénédiction. Pour toute l'éternité, on sera béni. Donc Dieu nous invite ce matin à dire oui à ce flow de la bénédiction de Dieu, de nous laisser immerger, combler par cette bénédiction, être une bénédiction et encore hériter la bénédiction. Ce n'est pas un beau sujet, ça? Voilà, mais ça passe par la dynamite et le martyre aussi. Hein? Voilà. Donc, Dieu nous appelle à cette mission. Tu seras une source de bénédiction. Donc, engagé en mission, je pense, c'est une triple mission. D'abord, au niveau local. Là où tu es, là où Dieu t'a placé, tu es pasteur. Tu n'es pas pasteur titulaire peut-être, mais Dieu t'a placé dans un job, dans une école, ben, tu étudies ou bien dans un apprentissage. Là où tu es, sans bouger en Afghanistan ou en Chine, Dieu t'a mis là pour que tu sois pasteur de ceux qui ne viennent pas à l'église. Vous voyez, moi je ne suis pas là où Dieu t'a placé. Je ne peux pas venir prêcher l'évangile à ta place. Dieu t'a mis là pour que tu sois une bénédiction là où il t'a placé. Donc localement, tu es pasteur de ceux qui ne viennent pas à l'église. Beaucoup ne viennent jamais à l'église. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sans pasteur, parce que Dieu t'a mis là-bas pour que tu sois leur pasteur là-bas, le berger de leurs âmes. Donc sois une bénédiction. Interculturel, parmi ceux qui sont venus de loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces musulmans qui viennent des peuples non atteints. Vous voyez, c'était difficile d'aller en Afghanistan. C'était compliqué d'aller en Iran. Les Kurdes, c'est un peuple non atteint depuis des décennies, des siècles. Et là, maintenant, ils sont devant nos portes pour que nous soyons une bénédiction pour eux. Et puis, global, aller vers les nations, vers les peuples qui ne le connaissent pas encore. Donc, Dieu veut que cette bénédiction touche, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vie d'Abraham, toutes les familles de la terre, donc tous les clans, toutes les tribus, pas seulement toutes les nations, mais tous les peuples à l'intérieur des nations. Vous voyez, chaque nation dans ce monde a actuellement une église, mais pas tous les peuples ont une église. Donc ça, c'est la vision globale, la vision finale de Dieu. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ça, c'est la grande vision finale de Dieu, où tout peuple, toute nation, toute tribu aura accepté la bénédiction dans le Messie. C'est ça qu'il veut. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? On a encore tellement de peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Maintenant, le chiffre, selon le site ou bien la source que vous cherchez, que vous consultez, les chiffres diffèrent parfois un peu, parce que certains comptent les peuples dans leur entité et d'autres comptent les clans ou les tribus, comme je prends l'exemple des Allemands, Suisse-Allemands, Autriche-Allemands. Il y a tellement de différents types d'Allemands. Maintenant, c'est un peuple, on peut dire. Mais non, je n'ai pas un homme de Berlin, je n'ai pas un Autrichien, mais c'est toujours un temps la grande famille des Allemands. Vous voyez? Donc, si maintenant, est-ce qu'on est 20 peuples ou bien un peuple, ça dépend de la source. Et de la même manière, on peut dire, il y a peut-être 1000 peuples, ou plusieurs centaines, ou plusieurs milliers même, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc, cette bénédiction, pendant trop longtemps, on l'a gardée pour nous. Maintenant, il faut que cette bénédiction sorte de nous pour que tous les peuples soient touchés par cette bénédiction en Christ. Vous savez, cette grande vision, ce n'est pas seulement nous qui l'avons, ce n'est pas seulement Dieu qui l'a. Vous savez, Coca-Cola aussi a une grande vision. Vous connaissez leur vision? Une canette de Coca dans la main de chaque personne de cette planète. Donc eux, ils bougent, ils foncent à tout prix, que ce soit à dos de cheval, que ce soit à vélo, que ce soit à pirogue, que ce soit en passant par les clowns. Ça, c'est la version suisse. Ce qui me frappe, c'est eux, ils ont commencé en 1886, donc à peu près 140 ans, on peut dire. Je vous dis, j'ai passé plus que 20 ans sur le continent africain, et souvent on a voyagé dans les lieux déserts, dans les petits villages en brousse, et je vous dis, partout où vous allez, vous avez trouvé une canette de coca. Vous êtes même dans un village qui n'a même pas de courant, qui n'a rien, mais vous trouvez un vieux frigo quelque part sans connexion. Vous ouvrez, et qu'est-ce qu'il y a dedans, la Bible? Non, la canette de coca est là. Donc, en moins que 140 ans, eux, ils ont hâté le monde. Le nom de Coca-Cola est plus connu dans le monde que le nom de Jésus-Christ. Et ça, je trouve, ce n'est pas normal. On a eu 2000 ans pour répandre la connaissance de Jésus. Eux, ils ont eu moins que 140 ans et ils ont atteint le monde. Et nous, on n'a pas encore atteint le monde. Eux, ils le font pour un gain économique, une réputation qui s'arrête au plus tard à la tombe. Nous, on le fait pour un intérêt spirituel qui ne va jamais s'arrêter. C'est pour l'éternité. Mais eux, ils ont réussi en 140 ans. Donc, ça m'interpelle, ça me frappe. Il y a des raisons pour ça. Vous voyez ce monde-là. Est-ce que ça, le monde des peuples non atteints, qui invite à des vacances, qui invite à la plage, qui invite à se reposer? Malheureusement, ce n'est pas ça le monde des non atteints. Ce monde des non atteints, c'est un monde où il y a l'extrémisme religieux. Vous voyez la liste des pays où il y a beaucoup de peuples non atteints. Vous connaissez ces pays-là. Ils sont souvent dans les médias. Donc, 9 des 10 pays qui persécutent le plus les chrétiens sont des pays à majorité musulmane. C'est là que se trouvent tous ces peuples non atteints, où l'extrémisme religieux, où une pauvreté écrasante, où il y a des désastres naturels, où il y a des instabilités politiques et guerres. Maintenant, la guerre d'Ukraine, ça change un petit peu les statistiques, mais avant l'Ukraine, pratiquement tous les pays où il y avait ces grandes instabilités, guerres, révoltes, c'était souvent les pays musulmans. Terreur islamique, il y a danger de kidnapping, il y a la violence, il y a la criminalité, il y a les accidents, il y a les maladies, il y a les crises familiales, relationnelles, il y a des défis légaux en tout genre. Et surtout, il y a les portes fermées. Vous voyez, tous ces pays où le peuple non atteint ne vous donne pas un visa missionnaire. Vous partez en tant que missionnaire en Afghanistan? Non. Au Soudan? Non. Vous partez en Libye en tant que missionnaire? Non. Donc on dit les portes sont fermées, on ne peut pas aller. Mais Jésus n'a jamais dit allez dans le monde entier si on vous donne un visa missionnaire. Donc frontières, ça a commencé il y a une quarantaine d'années. Et dès le début, on a dit cette terminologie de pays fermés, on élimine. Il n'y a pas de pays fermés. Soit il y a des pays ouverts ou il y a des pays à accès créatif. Un des deux. Donc si la porte est fermée, on va entrer par la fenêtre, mais on peut aller. Donc, en nos jours, vous avez des missionnaires de frontières dans tous ces pays, mais ils ne sont pas missionnaires. Ils ne sont pas entrés par la porte. Ils sont entrés par la fenêtre. Donc, vous partez en Afghanistan, vous dites, mais où est ce petit missionnaire frontière? Non, il n'est pas là. Il est médecin, il est étudiant, il est ingénieur, il est employé, il est touriste peut-être même. Peu importe, mais il est là pour le nom de Jésus-Christ. Donc l'étiquette n'est pas importante, mais c'est accepter cet appel d'être béni et d'être une source de bénédiction là où Dieu nous envoie. Donc si c'est dangereux, si c'est tellement risqué, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller là où il y a ces dangers-là? Pourquoi aller? C'est tout simple, parce que les autres n'y vont pas, parce que personne n'est allé jusqu'à ce jour. Donc Oswald Smith, un missiologue du XXe siècle, a dit « Pourquoi quelqu'un devrait-il entendre l'Évangile deux fois avant que tous ne l'aient entendu au moins une première fois ?» Voilà la question à se poser. Je vous donne un exemple. On est à Bienne, cette belle ville de Bienne. À peu près 53 000 habitants, on a une quarantaine d'églises. Donc vous avez les églises germanophones, vous avez les églises francophones, en plus vous avez les églises internationales, anglophones ou parfois même ethniques. Comme les Érythréens, ils ont leur église par exemple. Donc une quarantaine d'églises dans cette ville de 53 000 habitants, presque une église par 1000 personnes. On peut dire, alléluia, oui, c'est beau, c'est bien. Ou bien vous prenez le pays du Kenya, qu'on estime à 49% évangélique. Selon les statistiques, le Kenya est le pays le plus évangélique de ce monde. Mais malgré cela, vous avez un missionnaire expatrié sur 16 000 Kenyans. Est-ce que vous voyez? En même temps, vous avez d'autres régions comme Al-Hudaydah au Yémen, 660 000 habitants, zéro église, zéro messager. Est-ce que vous voyez? Vous avez Casablanca au Maroc, bien sûr, il y a une église, bien sûr, il y a une équipe missionnaire là-bas. Mais sur 3 500 000 habitants, il faudra au moins 7 équipes, une par 500 000 habitants, au moins pour toucher tous les quartiers. Ou bien vous prenez le peuple Galin au Soudan, presque 4 millions de personnes, zéro église, zéro messager. Donc, oui, on peut être heureux d'être béni dans une ville comme Bienne avec une quarantaine d'églises de 53 000 habitants, gloire à Dieu, et on reçoit la bénédiction. Maintenant, faisons attention à ne pas la serrer en nous, Mais passons-la plus loin pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et pourquoi pas toutes les familles de l'Europe? Pourquoi pas les Galines? Pourquoi pas Casablanca? D'ailleurs, Casablanca, ce n'est pas Afghanistan. Hein. Casablanca, c'est une très belle ville au bord de l'océan où il y a tout. Hein. Ce n'est pas la ville la plus terrible du monde. Et le Maroc, ce n'est pas le pays le plus terrible du monde non plus. Malgré cela, vous avez encore une ville qui a un tas de quartiers qui n'ont pas l'Évangile. Donc voilà, sans accès à l'Évangile, c'est pour cela qu'il faut la mission. On estime, ça c'est des points rouges, représentent des missionnaires. Les pays verts, c'est là que vous avez beaucoup de ce peuple musulman non atteint. Donc vous voyez, seulement 3% de tous les missionnaires travaillent dans les peuples qui sont réellement non atteints par l'Évangile. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on envoie peu de missionnaires, mais le peu qu'on envoie travaille à 97% dans des régions qui ont déjà l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on change cela. Donc 1 sur 30 missionnaires, comme vous le voyez à nouveau ici, 1 sur 30 missionnaires travaillent parmi le peuple réellement non atteint. Mais Dieu poursuit sa vision. Donc la dernière phase de notre ministère en Afrique, on a le privilège de travailler avec deux mouvements de musulmans à Jésus. Voyez, un nouveau record. Il n'y a jamais eu autant de musulmans qui suivent Jésus. Ce n'est pas un réveil partout dans le monde musulman, mais dans certaines régions, des milliers viennent à Jésus. On entend des rapports, des récits, des témoignages par-ci, par-là, que des musulmans répondent plus que jamais avant à l'Évangile. Et là, dans la dernière station, notre ministère en Afrique, vous voyez ici cette foule de personnes qui part ici au fleuve pour se faire baptiser, tous ces musulmans convertis. Donc il y a des régions comme ça, oui, et on peut à nouveau dire « Gloire à Jésus, Alléluia ». En même temps, il y a un deuxième record, il n'y a jamais eu autant de musulmans. Et chaque année, il y a 30 millions en plus. Donc même si un réveil quelque part avec 10 000 ou 20 000 musulmans qui viennent à Jésus, à la fin de l'année, nous aurons à nouveau 30 millions en plus. Ce n'est pas parce que beaucoup de foules se décident à suivre l'islam, c'est parce que leurs taux de natalité sont tellement plus élevés que chez nous. Et d'ailleurs, ils commencent aussi beaucoup plus tôt. Donc quand une femme moyenne en Suisse a 35 ans, son premier bébé, eux, ils sont déjà grand-mères là-bas, parce qu'ils commencent à 17, 18 ans. Vous voyez, donc ça se multiplie beaucoup, beaucoup plus vite. C'est pour cela que ça fait 30 millions en plus chaque année. Ça veut dire que même s'il y a des réveils à 5 ou 10 cendres, on peut dire Alléluia, mais à la fin de l'année, encore 30 millions, ou bien 29 millions en plus seront à être atteints. Donc Frontières se dit, voilà, on est un mouvement de protestation, on veut que ça change, on veut que tous ces pays-là soient pleins de ces petits points rouges, pour que chaque peuple ait accès à l'Évangile. Et donc, nous voulons nous faire l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'a point été nommé. Il faut que ça change, il faut que tous les peuples aient accès à l'Évangile, que l'Église soit implantée partout dans ce monde. Nous avons 256 équipes dans 55 pays. Vous voyez, ils sont beaucoup au Moyen-Orient, justement dans ces pays, où on dit que c'est un peu compliqué d'y arriver. Donc, c'est tous par accès créatif. En Arabie Saoudite, Yémen, tous ces pays-là, beaucoup en Afrique aussi, en Asie centrale, Indonésie, Inde, Afrique du Nord, donc tous ces pays-là, où on dit que ce n'est pas possible, mais non, c'est possible si on passe par la fenêtre. On a cette liste de 100 peuples ou villes non atteints. Vous voyez donc en rouge les peuples qui n'ont pas l'Évangile, en bleu les endroits, les villes qui ont besoin de témoignages. Donc on cherche à tout moment 100 nouvelles équipes qui partent dans ces 100 lieux pour annoncer le nom du Christ. Bon, maintenant j'ai parlé de millions, j'ai parlé de centaines de peuples, de milliers de personnes et ça peut dépasser certains. Donc je vais maintenant zoomer, nous focaliser sur ce que ça signifie pour moi. Si vous êtes passé par les millions, je vous lance le défi de commencer par une personne. Et je vous donne un témoignage par rapport, ben plusieurs témoignages, mais je commence par un témoignage par rapport à ça. Dans un parc non loin d'ici, dans le Jura bernois, il y avait une femme voilée kurde qui était assise sur un banc. Il y a une chrétienne, je connais toutes ces personnes personnellement, il y a une femme suisse qui est entrée dans ce parc. Et elle voit cette femme kurde voilée sur le banc. Et puis une petite voix dans son cœur lui dit, mais vas-y, assieds-toi à côté d'elle. Et bon, je ne sais pas comment vous réagissez à cette petite voix. Vous avez parfois la petite voix dans vos cœurs. Donc elle revue cette voix, elle dit, ah non, pas de la prochaine fois. Donc elle veut passer par là. Mais la voix, insiste en son cœur, vas-y, assieds-toi à côté d'elle. Donc après, oui, difficilement, elle obéit à la petite voix, elle s'assoit à côté d'elle. Et bon, il y a la barrière de langue, donc ils n'arrivent pas vraiment à partager, à discuter. Donc ils sont juste là, elle lui fait un sourire, elle est cordiale. Et puis à la fin de ces quelques minutes, elle lui dit juste, mais si un jour tu as besoin, viens chez moi, je te donne mon numéro de téléphone. À peu près 6 à 9 mois plus tard, le téléphone sonne. Et cette cure, elle parle un peu le français, elle avançait dans son intégration en Suisse. Donc c'est elle, il commence à lier une amitié. Et encore plusieurs mois plus tard, cette cure donne sa vie à Jésus. Son mari se convertit, son frère se convertit et son épouse aussi se convertit. Deux familles entières viennent à Jésus parce qu'une chrétienne ordinaire, ce n'est pas le pasteur titulaire, hein, c'est une femme chrétienne ordinaire, je veux dire, qui a juste écouté la petite voix dans son cœur, qui s'est assise à côté de cette cure sur le banc, qui a initié tout un, déclenché tout un processus pour ramener deux familles entières à Christ. Donc, si les millions de musulmans, si ce chiffre vous dépasse, si les centaines de peuples non atteints, si ça vous dépasse, commencez par la petite fille, le petit garçon, la femme, l'homme qui est peut-être à la gare ici, tout seul, ou bien dans le train, tout seul, ou bien dans le parc, tout seul. Asseyez-vous à côté d'elle, à côté de lui, et initiez une conversation, vous allez voir ce que tu as offert. Tu es béni. Partout où tu vas, tu as déjà la bénédiction. D'ailleurs, la Bible dit que tu es comblé de la bénédiction. Si tu es comblé, ça dépasse même ta bouche. Tes mains, tes pieds seront comblés. Ça va donner cette bénédiction plus loin. Mais il faut obéir à la petite voix. Est-ce qu'on est avec moi? On peut faire ça? Si chacun de nous le fait, la semaine prochaine, 40 personnes vont recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Voyez, nous, ça c'est ma famille, ça c'est chez nous à la maison, on est à côté de Bienne. Juste, voyez, on fait le barbecue avec des Iraniens, on boit le thé avec des Kurdes là dans notre salon. Ça c'est ma fille avec une Afghane. Ça c'est encore une visite dans une famille afghane. Ça c'est mon autre fille avec deux petits-enfants iraniennes. Donc, voyez, ce n'est pas des choses, comment je peux dire. Parfois, on se sent vite dépassé. On dit, mais comment je vais prêcher l'Évangile? Qu'est-ce que je vais dire quand ils me posent des questions? Mais souvent, ça ne commence pas par là. Ça commence par les petits gestes de la vie de tous les jours. Pas le thé ensemble, les inviter, leur rendre visite. Justement, vous asseoir à côté d'eux sur le banc. Là, après, on fait aussi des réunions plus formelles, là où on montre des films, et on se rencontre chaque semaine pour leur parler de Jésus. Pour moi, vous voyez, on mange ensemble parfois. Ça, c'est d'autres scènes de nos études bibliques avec eux. Et là, vous voyez, ces migrants qui viennent chez nous, par bateau, par toutes sortes de moyens, si on les rencontre avec une bonne dose d'amour, on verra des résultats qui vont nous encourager. On verra ces baptêmes. Là, ça, ce n'est pas de notre travail ici, mais là, par contre, ça, c'est des baptêmes qu'on a fait ici à Bienne, dans le lac de Bienne, avec des personnes qui sont venues de l'Iran, de l'Afghanistan, d'ailleurs. On les a accueillis avec amour. On leur a parlé de Jésus. Il ne faut pas se taire, hein, il faut parler de Jésus. Et puis, certains commencent à suivre Jésus. C'est comme cette dame-là qui est sur la photo, celle-là. Elle est donc venue par ce chemin aventurier. Elle est arrivée en Grèce. Et en Grèce, elle est tombée sur des chrétiens. C'est toujours ces hasards de Dieu. Hein. Elle tombe sur des chrétiens qui lui montrent l'amour. Et puis après quelques semaines, elle quitte, elle vient vers la route des Balkans, l'Autriche. Elle rentre à Kreuzlingen. Là, elle tombe sur nos amis. On a des amis là à Kreuzlingen qui aussi travaillent avec les migrants. À nouveau, elle est bien accueillie et tout ça. Elle vient dans le Jura bernois et puis après, elle vient dans nos rencontres ici à Bienne. Après quelques semaines déjà, elle demande le baptême. Et toujours quand quelqu'un demande le baptême, je leur pose des questions et surtout, pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser? Donc, je demande à elle, pourquoi tu veux te faire baptiser? Elle me dit, mais quand je suis arrivé en Grèce, c'est les chrétiens qui m'ont montré l'amour, qui m'ont tellement bien accueilli. J'arrive à Kreuzlingen, c'est les chrétiens qui viennent me visiter, qui sont cordiales et tout. J'arrive dans le Jura bernois, la même chose. Après, elle me dit, si les chrétiens qui suivent Jésus sont tellement bons, combien leur Jésus doit-il être bon? Je veux le suivre. Tu vois, c'est pas les... Ou bien un autre exemple, il n'est pas sur la photo, mais un homme, un Iranien aussi, qui est venu chaque fois à nos rencontres. Plusieurs mois, il vient chaque fois, on parle des anciens prophètes, de Jésus, tout ça. Et un jour, on parle de Galates 5. 22. Le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Et là, je vois ça, ça touche. Quoi. Parfois, on voit quand la parole touche des personnes. Donc, ça le touche. Et après, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, mais toute ma vie, je cherche ça. Je cherche une telle qualité de vie. Si c'est ça que Jésus produit en moi, je veux le suivre. Il a donné sa vie, sa femme aussi, le même soir, a confessé Christ. Et ils sont maintenant toujours venus, ils sont des piliers maintenant dans notre travail. Ici aussi déjà baptisés dans le lac de Bien. D'ailleurs, c'est elle là. Ah oui, c'est elle. C'est son épouse qui est juste baptisée là. La dernière conversion qu'on a vécue jusqu'il y a 2 semaines, c'était aussi un de ce groupe-là qui est venu un vendredi soir à la réunion et on voyait qu'il n'était pas bien. Donc on a offert la prière, on a prié avec lui, elle commence à pleurer, il dit « mais j'ai assez de cette vie, je veux sortir de ce système religieux et de tout l'occultisme ». Donc il y avait des choses occultes dans son appartement. On est d'accord, on vient lundi chez toi, moi je venais prier avec l'équipe, on va venir chez toi. Donc on est parti chez lui et puis là il sort toutes ces choses occultes avec des formules magiques, des talismans et toutes ces choses que certains pratiquent. Et donc, il a tout laissé, il est parti au WC, il a tout mis dans le WC. Il a fini avec ça, il a confessé Christ, et là, il a vraiment reçu une libération. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu sens maintenant? Il a dit, je vole, je suis libre. C'était tellement beau. Et à nouveau, ce n'est pas les grandes prédications qui font la différence. C'est les prières, c'est la visite, c'est la cordialité, c'est l'amour qui change tes vies. Donc, je n'ai jamais vu, avec notre travail des migrants ici, des Iraniens, Kurdes, Afghans, des gens qui m'auraient dit, c'est grâce à vos arguments qu'on a suivi Jésus. C'est grâce à la belle prédication que j'ai suivi Jésus. Non, c'est les petits gestes à la vie de tous les jours. C'est l'amitié et c'est le témoignage. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à nous tous. On peut partager la bonne nouvelle avec eux. La vision va s'accomplir. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. À nous, vous voyez, c'est répété en Apocalypse 5, 9, Apocalypse 7, 9, Apocalypse 19, 1, une foule nombreuse qui va dire « Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu ». Donc cette belle vision que Coca-Cola aussi poursuit, elle doit s'accomplir aussi pour le nom de Jésus-Christ. J'en suis convaincu parce que la promesse, donc la mission, ce n'est pas d'abord le grand commandement, ce n'est pas l'ordre suprême, mais c'est la promesse suprême. Parce que Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis. Donc peut-être vous dites aujourd'hui, mais pas la mission. Et moi je dis, mais pourquoi pas la mission? Pourquoi pas la mission? Pourquoi pas faire le premier pas? Pourquoi pas sortir de la zone de confort? Parce que souvent les grandes choses se passent quand on quitte la zone de confort. Que ce soit ici sur le petit banc dans le parc, que ce soit pour un court terme quelque part en Afghanistan, pourquoi pas faire ce premier pas? Donc j'arrive à la fin de mon message. Et je vais juste répéter ça, tu es comblé de toute bénédiction en Christ. Vous savez, en latin, bénédiction signifie benedire, benedire, dire du bien, dire de bonnes choses. Et bien ce matin, tu ne te sens pas comme comblé de la bénédiction. Peut-être que tu te sens lourd ou fatigué, peut-être que tu as vécu des choses qui ne sont pas comme une bénédiction. Et ce matin, c'est cette impression que Dieu veut te dire, mais non, quoi qu'il soit arrivé dans ta vie, Dieu dit des bonnes choses sur toi. Dieu dit la bénédiction sur toi. Il veut annuler la malédiction. Il veut annuler le mal et dire. Malédiction, c'est mal et dire, dire des mauvaises choses. Donc ça, c'est par la déclaration de Jésus, c'est annulé en toi et remplacé par le bénédire, par la bénédiction de Dieu. Et puis, il te dit que tu es appelé à bénir. À nouveau, tu ne te sens peut-être pas bien dans les émotions de bénir. Peut-être dans une situation complexe avec ton papa, avec ton chef, avec ton mari, avec ton épouse. Je ne le sais pas, mais quoi que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te dit cet appel de base, il est sur toi. Tu es appelé à bénir. Même si la situation est tellement compliquée, tu es tellement découragé, ton appel devant Dieu, c'est bénis cette personne. Bénis ton chef, bénis ton époux, bénis ton épouse, bénis les enfants, ça peut être compliqué parfois, comme les parents aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Si on t'a dit mal et dire, toi tu remplaces ça par le bien et dire. Déclare la bénédiction de Dieu, même si c'est compliqué, et tu verras un changement. La bénédiction change des choses. Tu seras une bénédiction et sache que tu vas hériter la bénédiction. Tu vas l'hériter. C'est une promesse que Dieu t'a faite. Donc, c'est cette invitation-là de vivre dans l'atmosphère de la bénédiction de Dieu. Et c'est une décision que tu prends. Une décision. À partir de ce jour-là, je veux répondre à l'appel de Dieu et bénir. Donc, recevez ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.